Radio Okapi.
Le journal, présenté par Gisèle Cage.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes nombreux à nous suivre ce matin sur Radio Okapi. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'écoute de ce journal. Voici les principaux titres. Appel à la paix. Le président de la Guinée-Bissau, Omar Sissoco Embalo, en visite à Kinshasa, exhorte la RDC et le Rwanda à mettre fin au conflit et rétablir la paix durable dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. 30 avril, journée nationale de l'enseignement. Pas de célébration cette année en raison de la situation sécuritaire préoccupante dans l'est du pays, annonce la ministre Raissa Malou. Réhabilitation des axes routiers dans la zone tampon du parc national de la Lomami. Entretien exclusif avec Radar Birachiroa Nishuli, directeur provincial de l'ICSN, sur les motivations et les enjeux de ces initiatives cruciales. Restez avec nous pour ne rien manquer. En visite officielle à Kinshasa pour une durée de 48 heures, le président de la Guinée-Bissau, Omar Sissoco Embalo, exhorte le chef d'État de la RDC et du Rwanda à privilégier la voie de la paix. Arrivé à Kinshasa hier mardi après un séjour de 3 jours à Kigali, le président Embalo a déclaré devant les médias que la RDC et le Rwanda, en tant que voisins et africains, ne doivent en aucun cas subir les affres de la guerre comme c'est actuellement les cas dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. De son côté, Félix Tshisekedi réaffirme son engagement ferme à rétablir une paix véritable et définitive en RDC. Billy Yvan Lutumba nous fait le point.
Reconnaissant qu'il n'a pas le rôle de médiateur dans le conflit, Omar Sissoco Embalo avoue cependant que la RDC, de par sa position stratégique en Afrique, constitue un levier de développement pour le continent. Une raison donc valable de militer pour la paix sur son territoire et tisser aussi avec elle des relations de coopération.
Le Congo a une expérience, surtout dans la matière minière. Donc, et la Guinée-Bissau aussi, on a quelques minéries qu'on n'a pas encore commencé à exploiter. On veut gagner cette expérience. Nous sommes grands exportateurs de poissons et de l'agriculture aussi. Nous sommes dans cette dynamique.
Dans sa prise de parole, Félix Tshisekedi reconnaît l'implication de son hôte dans la quête de la paix entre le Rwanda et la RDC. Il tient en plus au respect des initiatives de paix entreprises par les partenaires de la RDC.
Je suis convaincu que le jour où l'Afrique deviendra vraiment cette zone de libre-échange, on parlera de nous autrement. Il faut qu'on se débarrasse de certaines tares en termes d'invasion, de déstabilisation des pays voisins et autres. Plutôt que d'ériger des murs entre nous, jeter plutôt et construire des ponts pour relier les nations, parce que nous sommes tous liés par les mêmes défis. Je ramènerai la paix, mais la paix véritable et définitive. Après ce que vous êtes en train de voir, il n'y aura plus de problème d'instabilité en République démocratique du Congo. Ça, c'est mon vœu et mon serment à la fois.
Signalons que de cet échange de mardi, la Guinée-Bissau et la RDC envisagent l'ouverture prochaine des représentations diplomatiques dans les deux pays.
Et le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères poursuit son périple dans la région. Maxime Prévost est arrivé hier mardi à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu en provenance de Kinshasa. Il a rencontré le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Évariste Somo. Les discussions entre les deux responsables ont porté sur des sujets essentiels tels que la sécurité, le développement ainsi que l'assistance humanitaire, sanitaire et alimentaire. Maxime Prévost s'exprime dans cet extrait sélectionné par Marc Maroufimbo.
Je voulais à tout prix que, étant de passage en République démocratique du Congo, je ne limite pas ma présence à la seule capitale, mais que je puisse aussi, au vu de la portée symbolique forte que cela peut revêtir, être également présent à l'est du Congo, au plus proche, pour autant que les conditions de sécurité le permettent, de la population et des autorités qui sont confrontées aux actes de violence depuis de trop nombreux mois et années, avec une population qui vit des exactions chaque jour qui sont dramatiques, qui sont inqualifiables, mais qui ne sont surtout pas tolérables. Et il est évident que le Royaume de Belgique entend mobiliser ses leviers d'action diplomatique, mais aussi de coopération au développement, pour pouvoir amplifier l'aide notamment humanitaire, alimentaire, sanitaire, qui est déjà procurée par la Belgique et ses ONG depuis de nombreuses années, et qui va maintenant connaître une amplification. C'est la proposition, en tout cas, que nous faisons à Monsieur le Gouverneur et aux autorités civiles, pour pouvoir permettre à notre agent Enabel, en partenariat aussi avec le Virunga, de pouvoir avoir un pôle de soutien plus fort.
Restons dans la région. Depuis hier, un mouvement de retrait de troupes de la SADC, la SAMIDRC de la ville de Goma est observé. Ce retrait s'effectue par voie terrestre via le frontière dite grande barrière entre la RDC et le Rwanda, déployé au Nord Kivu depuis décembre 2023 pour soutenir les forces armées de la RDC dans la lutte contre le groupe armé dans l'est du pays. La SAMIDRC est restée bloquée à Goma après la chute de cette ville fin janvier 2025. Jude Bilanda pour plus de détails.
SAMIDRC, cette force régionale de la SADC, est composée de militaires fournis par les armées de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la Tanzanie. Environ trois mois après la déconfiture aux côtés de leur hôte, l'armée congolaise, la SAMIDRC aurait pu quitter la RDC directement par l'aéroport de Goma. Un arrangement conclu avec la rébellion du M23, arrangement qui prévoyait que les États fournisseurs des troupes contribuent à la réhabilitation de l'aéroport de Goma. Ceci aurait permis à la force régionale de la SADC de sortir accompagnée de toute sa logistique. Cependant, l'attaque de la ville de Goma, survenue dans la nuit du 11 au 12 avril courant, a changé les cours des choses. La rébellion, soupçonnant une participation de la SAMIDRC à cette activité, a exigé le départ immédiat de cette force. Par ailleurs, le Rwanda aurait autorisé l'utilisation de son territoire pour permettre à cette force de gagner un pays de la partie orientale, d'où les contingents partiraient vers leur pays respectif. Ainsi donc, ce mardi, la population de Goma a assisté au passage d'un long convoi transportant troupes et matériels de guerre vers la frontière. Une fois la frontière franchie, le convoi est encadré par une escorte de l'armée rwandaise, confirme nos sources.
Ce journal se poursuit sur Radio Okapi. Nous sommes le 30 avril, journée nationale de l'enseignement. Cette année, aucune grande célébration n'est prévue en raison de la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays, notamment dans sa partie orientale et les zones sous occupation. Sur instruction de la ministre d'État de l'Éducation nationale et de Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, cette décision a été communiquée officiellement par le secrétaire général de ce ministère la semaine dernière. Le point avec Benjamin Moudoumbi.
La célébration se fera sans pompe cette fois, compte tenu d'une part de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est. Situation qui fait qu'un nombre impressionnant d'élèves sont actuellement privés de leur droit à l'éducation. Toutefois, la ministre va adresser un message à la grande famille éducationnelle pour la circonstance en lieu et place de grandes démonstrations festives habituelles. Quant aux écoles, chacune selon le moyen disponible peut organiser les activités culturelles du moment de réflexion et de causerie. Tout cela en toute modestie et sobriété, ayant toujours une pensée particulière pour tous les élèves qui sont dans les zones de guerre et à qui le droit à l'éducation est en ces moments inaccessible. D'après ce même communiqué, cette approche cherche à souligner l'importance de l'éducation dans un contexte national marqué par des difficultés sécuritaires et humanitaires. En favorisant la réflexion et la sensibilisation, le ministre de l'Éducation nationale entend exprimer son soutien aux élèves et aux communautés affectées par le conflit, tout en continuant à faire de la célébration de l'enseignement un moment significatif à l'échelle nationale.
En Nord Kivu, la journée du 30 avril est marquée par la tristesse pour les enseignants vivant dans les zones occupées. C'est le constat d'un enseignant de Rutshuru qui a dû fuir son domicile en 2022 en raison de la guerre qui sévit au Nord Kivu. À ces jours, cet enseignant n'est toujours pas retourné chez lui et continue à errer entre diverses familles d'accueil comme beaucoup de ses collègues. Il appelle le gouvernement à améliorer les conditions des enseignants. Suivez Sifa Maguru.
La situation est indescriptible, témoigne ce préfet des études dans la sous-division Rutshuru 5. La misère se lit sur le visage des familles des enseignants, témoigne-t-il. Alors que les enseignants déplacés vivaient grâce à peu d'assistance dans les camps de déplacés, aujourd'hui ces derniers se retrouvent carrément déshumanisés. Depuis l'occupation de la ville et le démantèlement des camps de déplacés, certains enseignants ont pu regagner leur village alors que d'autres, craignant encore pour leur sécurité, préfèrent rester et vivent dans la précarité totale, explique-t-il.
Depuis janvier jusqu'à présent, il est difficile de dire que nous vivons. C'est comme si on peut demander à quelqu'un qui passe dans la rue comment il vit. Comme les animaux vivent, c'est ça, c'est la vie que les enseignants mènent dans notre province. Il est difficile de nouer le début du mois, on vit de le monde, nous sommes déshumanisés. Pour le moment du 30 avril, le jour de l'enseignement, nous voudrions juste interpeller tout le monde qui intervient dans l'éducation de savoir qu'au Nord Kivu, l'enseignement est en péril.
Rappelons que la quasi quasi-totalité des enseignants des territoires occupés du Nord Kivu n'ont pas encore reçu leur salaire depuis janvier 2025 à cause de l'indisponibilité des banques, ce qui les rend encore plus vulnérables parmi toute la population.
Et pour boucler ce chapitre, le professeur Jean-Louis Essambois a réussi à redresser la faculté de droit de l'Université de Kinshasa au cours de ses deux mandats. En tant que doyen, à l'issue de son mandat, les étudiants saluent le niveau de la formation et l'ordre désormais établi au sein de cette faculté. Lors de son dernier conseil facultaire ce mardi, Jean-Louis Essambois s'est félicité de l'unité retrouvée entre le corps professoral et l'organisation des cours à la faculté de droit. Michel Kifindangoy nous fait le point.
Au cours du conseil facultaire, toute la communauté scientifique et académique de la faculté de droit a salué le leadership exemplaire de Jean-Louis Essambois à la tête de cette faculté. Motif de satisfaction pour les étudiants, comme le souligne ici Adolphe Ngoy, délégué facultaire.
Il a eu le mandat pendant une période très difficile, caractérisée par la COVID-19. Par l'insuffisance des salles, mais il s'est évertué en homme de qualité. Nous voici aujourd'hui à la fin de ces deux mandats. Les étudiants sont à la page avec le calendrier académique.
Pour le doyen de la faculté des droits, la numérisation de cette faculté et le rétablissement de l'ordre dans l'octroi des diplômes restent le défi que devra relever son successeur, Jean-Louis Essambois.
Ce que j'ai pu laisser à cette faculté, c'est une faculté rénovée. Je crois que la faculté a connu une sorte de disparition des grilles de délibération. Je crois que c'est dans ce cadre-là que se trouvent certains candidats qui cherchent à avoir leur titre académique. Donc c'est un passé moins radieux que nous avons trouvé, qu'on n'a pas pu résorber en raison de l'absence des référentiels.
Notez que l'élection du nouveau doyen de la faculté de droit est prévue pour samedi prochain.
Justice. Les embouteillages de Kinshasa entravent la progression des audiences à huis clos du procès des officiers supérieurs des FARDC et de la police accusés de fuite devant la rébellion du M23 AFC dans le nord et sud Kivu, à peine reprise hier mardi à la haute cour militaire après le décès d'un ancien prévenu, le général Dieu Gentil Alimbia. Les audiences ont été renvoyées à une date ultérieure en raison de l'absence d'un membre de la composition bloquée dans les embouteillages. Depuis le 20 mars, la haute cour militaire a décrété le huis clos des audiences suivies du décès du général-major ex-commandant de la 34e région militaire. Par ailleurs, dans une autre affaire concernant les procès du meurtre du policier Fiston Kabeya suite aux coups et blessures présumées reçues des policiers de l'équipe d'escorte de la première ministre le 25 mars dernier, la cour militaire de Kinshasa Gombe n'arrive toujours pas à siéger faute de prise en charge financière des médecins légistes requis par le ministère public pour expertiser le corps du policier de la police de circulation routière. Préalable à la reprise des audiences, le médecin exige d'être payé par l'État avant d'effectuer leur travail selon des sources judiciaires. À Kinshasa, toujours la démolition des constructions anarchiques se poursuit à la gare de Kintambo Magasin dans la commune d'Engalima depuis le samedi dernier. Maisons d'habitation, bars, boutiques et autres immeubles en cours de construction sont en pleine démolition dans le cadre d'un vaste projet de réaménagement initié par les autorités. Selon le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, cet espace appartenant à l'Office national de transport Onatra est en cours de réhabilitation pour accueillir une gare ferroviaire ainsi qu'un arrêt pour voitures et motos. Ce projet vise également à désengorger le carrefour de Kitambo Magasin. Vanessa Kongolo et Jonathan Fuanani se sont rendus sur place. Voici leur reportage.
Nous sommes à Kitambo Magasin. Les immeubles construits sur les terrains de l'Onatra sont en pleine destruction. Les habitants en détresse récupèrent ce qu'ils peuvent. Félix Lusanga, l'une des victimes, ne sait à quel sein s'est voué.
J'ai 8 enfants. Est-ce que je veux aller avec ces enfants-là ou...
Non loin de là, sur l'avenue Tabora, une autre victime dit avoir tout perdu.
Tel que je suis là, ce que j'ai récupéré, c'est seulement cette chemise.
Picho Mobaya affirme qu'il habite dans sa maison depuis 1984.
Nous n'avons reçu aucun. aucune information venant de la part de l'hôtel de ville, soit Onatra. Donc, bref, on n'a pas été notifié. La concession de l'Onatra commence à partir de la voisine limite-là. Nous sommes des parcelles voisines à l'Onatra. Nous n'occupons aucunement la concession de l'Onatra.
Quelques passants curieux espèrent que ces projets initiés par les autorités vont aider à diminuer les embouteillages.
Félicitations, Tshisekedi. Ça a donc ce chemin de fer.
Félicitations, président Tshisekedi. S'il remet ce chemin de fer, ça nous fera du bien. Les embouteillages vont sûrement diminuer. Nous souhaitons qu'ils mettent même des hors-bord sur le fleuve. Comme ça, les uns seront sur la route principale, d'autres vont prendre le train et d'autres encore seront sur le fleuve. Et donc, que les autorités multiplient les moyens de transport.
Selon Léon Moulumba, ministre provincial de l'Environnement et de la ville de Kinshasa, ces démolitions seront menées aussi à la baie d'Engalim.
Actualité internationale.
En Ouganda, à un an de la présidentielle de 2026, le climat préélectoral s'étend. Le 26 avril, la police a encore encerclé le siège du principal parti d'opposition, la plateforme de l'unité nationale NUP de Bob Wine, empêchant la tenue d'une conférence de presse. Le NUP voulait en effet lancer une campagne de vote de protestation, appelant notamment les jeunes à voter contre le gouvernement en vue des élections générales de l'an prochain et à défendre leurs droit démocratique, une activité qualifiée d'illégale par la police au nom de la sécurité publique. Enoch Barata, cadre du parti au pouvoir, le mouvement de la résistance nationale NRM, soutient l'intervention des forces de l'ordre. Le NUP s'est habitué à provoquer des violences, à bloquer des routes et à semer le chaos parmi la population. Il faut à un moment faire la distinction entre les droits civiques politiques et la pure criminalité. Des accusations rejetées par David Lewis Rubongoya, secrétaire général du NUP.
L'invité.
Notre invité aujourd'hui est Radar Birashirwa Nishuli, directeur provincial de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, l'ICCN avec le soutien financier de KFW, établissement de crédit pour la reconstruction, vient de réhabiliter plusieurs axes routiers dans la zone tampon du parc national de la Lomami. Ces travaux comprennent 56 km sur l'axe Ndingi Bafundo, 6 km sur l'axe Ndingi Chombe-Kilima et 6 km sur l'axe Ndingi-Lukando. Dans cet entretien exclusif avec Florence Kizalunga, Radar Birashirwa Nishuli nous dévoile les motivations derrière ces initiatives cruciales. Suivez.
Monsieur Radar Nishuli, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
Monsieur Radar, c'est dans quel cadre que ICCN a tenu à réhabiliter ces 68 kilomètres dans la zone tampon du parc national de la Lomami?
Vous savez, la Lomami est la seule aire protégée de la RDC qui a été créée avec sa zone tampon. Cela veut dire que nous ne pouvons pas protéger seul ce parc sans la contribution de communautés qui vivent autour de cette aire protégée. Et quand nous avons fait des études socio-économiques, on a trouvé que même si on a mené le développement dans ces zones-là, il est pratiquement difficile de parler de développement là où il n'y a pas de route. C'était des petits sentiers, même les vélos passaient difficilement. C'est comme ça que nous avons décidé, avec les communautés, d'ouvrir les 68 kilomètres. C'est pas tout, hein, mais c'est déjà un bon début. Puisqu'on se disait, les communautés veulent faire des activités de développement, des activités génératrices de revenus, mais même s'ils font l'agriculture, comment ils vont écouler les récoltes? C'est comme ça qu'on s'était mis ensemble, on a décidé de rouvrir les 68 kilomètres d'abord.
Pour ICCN, quel avantage ou importance de ces routes?
Pour l'ICCN, vous savez, c'est que nous protégeons pour la population, mais c'est la population pour laquelle nous protégeons qui vient détruire encore ce que nous protégeons pour elle. L'ICCN profitera de cette route pour contrôler le trafic. Deuxième chose, avec le gouvernement provincial, nous nous sommes dit que d'ici l'année prochaine, on va tester le premier tourisme au parc national de la Lomami. Et sans route, il n'y aura pas le tourisme. C'est-à-dire du point de vue touristique, génération de revenus, nous avons besoin de ces routes.
En réhabilitant seulement 68 kilomètres, vous pensez vraiment améliorer la situation économique de cette population?
Ah, déjà, les déclarations de communautés qui ont reçu déjà cet appui, ils vous diront que nous sommes désenclavés. Puisque là où une moto prenait 6 heures, 8 heures, aujourd'hui la moto est en train de faire 3 allers-retours la journée. Et là où ils consommaient 3 litres d'essence, ils sont en train de consommer 1 litre. Il y a quand même quelque chose chose qui a augmenté. Je ne peux pas dire que nous avons résolu le problème, mais c'est déjà un bon début. Nous pouvons nous dire que c'est le début du commencement.
Oui, monsieur Radar, vous avez travaillé ICSN en partenariat avec KFW et WHH qui sont arrivés à faire un projet. Comment est-ce que vous allez continuer et quelle sera la prochaine étape?
Fin projet, c'est peut-être trop, puisque la KfW, qui est la banque financière de l'Allemagne, il continue à nous appuyer. Et avec le WHH, oui, le projet, dans sa phase de réhabilitation, a pris fin. Maintenant commence la phase d'utilisation de la route qui concerne maintenant le parc et les communautés, et le gouvernement, bien sûr. Donc, WHH a fini sa mission de rouvrir les routes, mais KfW reste avec nous dans le cadre des activités de développement et dans les activités de la protection du parc.
Quelle politique vous avez mise en place pour l'entretien de ces routes? Parce que la route sans entretien, ce n'est rien.
Une très belle question. Hein? Je pense que vous avez suivi le gouverneur de province. Il a dit que cette semaine, il va signer un arrêté qui définit les modalités de fonctionnement des CLER, les comités locaux d'entretien routier. C'est une façon de responsabiliser les comités locaux pour qu'ils s'approprient l'entretien. Déjà, nous leur avons demandé d'ouvrir leur compte bancaire. On va y verser quelque chose. Les 3 mois qui suivent l'arrêt, qu'ils peuvent être en train de fonctionner en attendant que le gouvernement trouve des moyens plus conséquents pour les accompagner dans l'entretien de la route.
Qu'en est-il alors du tronçon Dingi Kindu?
Tronçon Dingi Kindu, le parc a une niveleuse, un bulldozer. Nous sommes prêts à mettre à la disposition du gouvernement provincial ces 2 machines pour aider à rouvrir aussi la route Kindu-Dingi. Sous une seule condition, le gouvernement paye du carburant, il paye le machiniste et nous, notre contribution comme parc, c'est disponibiliser les machines. Et le gouverneur a promis que d'ici entre mai et juillet, il va étudier cette opportunité-là et voilà.
Monsieur Radar Nishuli, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Radar Nishuli, directeur provincial de l'Institut congolais pour la conservation de la nature au Maniema, dans cet entretien avec Florence Kizalunga. Nous arrivons à la fin de ce journal sur Radio Okapi. C'est avec grand plaisir que nous avons constaté votre fidélité, votre présence nombreuse à l'écoute. Nous espérons que vous avez apprécié les informations de ce jour. Restez à l'écoute pour notre prochain journal qui sera diffusé à 7h. À très bientôt.